Vous êtes branchés sur France Inter, il est 19h. Et on retrouve Alexandra Dubouchereau pour le journal. Bonsoir.
Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. 6 Français auraient été assassinés au Niger. C'est ce qu'annoncent ce soir les autorités nigériennes. Le Quai d'Orsay ne confirme pas pour l'heure. Des vérifications sont en cours. À la une ce soir, le défi de la reconstruction au Liban. La visioconférence des donateurs vient de s'achever sous l'égide de Paris et de l'ONU. Nous verrons quelle aide humanitaire d'urgence a été débloquée, avec quelles garanties pour le peuple libanais. En studio avec nous, Christian Chéneau du service Monde de France Inter. Dans ce journal encore, le masque obligatoire en Ile-de-France demain. L'Agence régionale de santé en appelle à une prise de conscience collective. Les suites de l'enquête à Montauban après la mort d'un routier. Le gendarme est sorti de garde à vue tout à l'heure. Et puis le combat d'une île paradisiaque contre la marée noire. Des milliers de personnes ont afflué à l'île Maurice pour faire des barrages de fortune et nettoyer des plages. On entendra le témoignage d'un couple de riverains. La canicule s'étend aux Alpes en France. Au total, 54 départements sont en vigilance orange et toujours 15 en rouge. Point météo complet à la fin du journal. Mais avant cela, on fera un tour au PC Mobilité de Radio France pour vos conditions de circulation ce soir.
France Inter.
6 touristes français auraient, le conditionnel est de rigueur pour l'instant, auraient été tués à la mi-journée au Niger par des hommes armés à moto. L'information a été donnée par un gouverneur local en fin d'après-midi. Et pour l'heure, Nathalie Hernandez, les autorités françaises restent très prudentes.
Depuis la fin de l'après-midi, les autorités françaises cherchent à vérifier ces informations données par le gouverneur de Tillabéri. Elles veulent savoir, parmi ces 8 personnes tuées dans la région de Kourou, s'il y a bien des Français, ce qu'ils faisaient là-bas, s'ils étaient effectivement en séjour touristique dans cette province où se trouvent les derniers troupeaux de girafes d'Afrique de l'Ouest, ou bien s'ils faisaient partie d'une organisation humanitaire. Toujours est-il que, selon l'agence France Presse, une attaque a bien eu lieu sur la route nationale numéro 1 en fin de matinée, vers 11h30, à une 60aine de kilomètres de la capitale Niamey. Selon l'AFP, un groupe d'hommes armés à moto se serait caché dans la brousse. Ils auraient guetté le passage des victimes. Un chargeur vidé de cartouches aurait été découvert sur place. Cette zone du Niger est déconseillée par le Quai d'Orsay. Elle fait partie de la zone des trois frontières, dans laquelle des groupes armés sont installés et commettent des attaques de plus en plus violentes depuis plus de 2 ans.
Nathalie Hernandez pour France Inter. Emmanuel Macron en première ligne de l'aide internationale au Liban, 5 jours après la double explosion meurtrière du port de Beyrouth. Le président de la République co-organisait aujourd'hui avec l'ONU une visioconférence des donateurs. Une 30aine de dirigeants de pays et d'institutions a participé, dont les États-Unis, le Qatar, l'Union européenne ou encore le FMI. En ouvrant cette conférence, en début d'après-midi, Emmanuel Macron a exhorté la communauté internationale à agir vite et avec efficacité. Bonsoir Christian Chéneau.
Bonsoir.
Vous avez eu accès au communiqué final il y a quelques minutes. Alors on n'a pas le détail des contributions pour l'instant, on en sort plus dans la soirée. Mais en attendant, c'est sûr, il y aura un geste fort de la communauté internationale pour le Liban.
Oui, les donateurs ont voulu envoyer un message de solidarité. Ils font savoir que la communauté internationale ne laissera pas tomber le peuple libanais dans ces moments de grande détresse. Les participants ont insisté sur la nécessité que l'aide soit distribuée avec la plus grande efficacité et transparence, selon l'expression du communiqué final. Aller vite, mais sous le contrôle très étroit des Nations Unies, qui seront chargées de distribuer l'assistance internationale afin de répondre réellement aux besoins des Béroutins qui vivent aujourd'hui au milieu des ruines et des gravats. Dans l'immédiat, l'ONU estime à près de 120 millions de dollars les fonds nécessaires pour répondre à l'urgence médicale, la sécurité alimentaire, le relogement provisoire et la reconstruction des écoles. La Commission européenne a fait savoir officiellement qu'elle avait ajouté 30 millions d'euros aux 33 millions déjà alloués vendredi dernier, soit au total 63 millions. Le Qatar a annoncé une contribution de 50 millions de dollars, le Koweït 40 millions. Précision importante, cette aide d'urgence sera délivrée sans condition.
Et au-delà de ces aides financières et opérationnelles, les donateurs ont aussi évoqué, Christian, tout à l'heure, l'avenir du pays.
Oui, et en particulier, il a été évoqué les réformes que ces mêmes bailleurs de fonds internationaux réclament depuis des années, en particulier depuis la conférence Cèdre de 2018. Les donateurs se disent prêts à soutenir le redressement économique et financier du Liban, à condition que des réformes attendues par la population soient mises en œuvre par le gouvernement libanais. Une façon de mettre au pied du mur l'équipe dirigeante à Beyrouth.
Et après la double explosion meurtrière à Beyrouth, merci Christian Chéneau. La colère ne faiblit pas au Liban, malgré une première démission au sein du gouvernement, celle de la ministre de l'Information aujourd'hui. Une nouvelle manifestation anti-gouvernementale est en cours dans la capitale libanaise et des heurts ont éclaté tout à l'heure avec les forces de l'ordre. Le dernier bilan de la catastrophe est toujours de 158 morts, 6000 blessés, une vingtaine de disparus et des centaines de milliers de sans-abri. Selon l'armée libanaise, il y a désormais peu d'espoir de trouver des survivants dans les décombres. La pandémie de coronavirus s'amplifie terrifie. Au cœur de l'été, à l'étranger, le Brésil passe la barre des 100 000 morts. Les États-Unis en comptent 162 000 et 5 millions de cas. La Belgique, de son côté, interdit les touristes d'un jour dans plusieurs villes et stations balnéaires flamandes après une bagarre entre vacanciers à propos justement des mesures sanitaires. Et en France, le masque se généralise à l'extérieur dans les grandes villes pour lutter contre la propagation du virus, après Marseille depuis hier, mais aussi Toulouse, Lille ou encore Nice. Il sera obligatoire dès demain matin dans les secteurs les plus fréquentés de la capitale et de 4 départements voisins. L'Île-de-France en ce moment, c'est 500 cas positifs recensés chaque jour contre une centaine en juin. Alors à ceux qui se plaignent d'avoir trop chaud avec ces masques, le directeur de l'Agence régionale de santé Île-de-France, Nicolas Péju, fait une petite mise au point.
Nous avons une tendance qui n'est pas bonne et qui doit nécessiter, même actuellement, au cœur du mois d'août, une forte mobilisation. Bien évidemment, le port du masque, mais je veux insister, il n'y a pas que le port du masque. D'abord, il n'y a pas que le port du masque là où c'est obligatoire. D'une manière générale, il faut porter le masque dès qu'on ne peut pas respecter les mesures de distanciation. Mmh. Mais également, le lavage de mains, on l'oublie parfois, c'est bien de porter le masque, mais si on ne se lave pas les mains, ça ne sert à rien. Donc il faut vraiment une prise de conscience collective que la tendance n'est pas bonne. On est dans un début de reprend épidémique. Si on ne veut pas qu'il se transforme en début de deuxième vague, il faut impérativement cette prise de conscience pour renforcer toutes les mesures de prévention et inverser cette tendance dans les jours et dans les semaines qui viennent.
Le directeur de l'ARS Île-de-France, Nicolas Péju, avec Marc Potvin. À Paris, les secteurs concernés par le port obligatoire du masque dès 8h demain matin sont les quais de Seine, le canal Saint-Martin, la butte Montmartre et une centaine de rues commerçantes. Fin de 2 jours de garde à vue pour le gendarme qui a battu un chauffeur routier vendredi près de Montauban après une course-poursuite. Aucune charge n'est retenue à ce stade, c'est ce qu'a indiqué le procureur de la République. Et Jeanne-Marie Marco, de nouveaux témoins ont été entendus dans cette affaire.
Oui, des témoignages à charge contre le chauffeur routier. D'abord celui d'un homme qui a croisé sur la commune de Grisolles en sens interdit le semi-remorque. Il explique aux enquêteurs que le chauffeur roulait à environ 70 km/h et qu'il a été obligé de se déporter sur le côté pour éviter l'accident. C'est ce témoin qui a permis aux militaires d'arrêter le chauffeur du camion qui, par la suite, a été testé positif à la cocaïne. La course-poursuite a duré plusieurs minutes sur une dizaine de kilomètres. Et juste avant les tirs mortels, le chauffeur a été mis en joue par 4 gendarmes postés sur un rond-point à l'entrée de la voie rapide. Il raconte aussi la violence du conducteur qui a manqué de les percuter. Tous ces témoignages peuvent donc expliquer le geste du gendarme qui a tiré 4 fois sur le camion. Les forces de l'ordre peuvent utiliser leur arme à feu dans plusieurs situations et notamment lors d'un refus d'obtempérer, à condition que le conducteur mette sa vie ou celle des autres en danger.
Jeanne-Marie Marco, France Bleu Occitanie pour France Inter. L'inspection générale de la gendarmerie nationale est saisie. Un peu plus au sud, dans les Pyrénées, d'importantes recherches sont en cours pour retrouver un parapentiste disparu depuis jeudi au niveau du Pic Schrader. L'homme faisait partie d'un club local de parapente. Il était parti pour un vol de distance. France Inter, 19h08, à l'île Maurice, la population se mobilise pour tenter de contenir une marée noire. 1000 tonnes de carburant se sont déjà échappées d'un vraquier échoué il y a 2 semaines sur la côte sud-est. Mais les autorités craignent que la coque ne se brise, une catastrophe écologique. Écoutez le témoignage de 2 riverains, un couple franco-mauricien joint par Agera Mohamed pour France Inter.
Depuis la fenêtre de leur appartement, Eric et Christine peuvent apercevoir le gigantesque navire à moitié enfoncé dans l'eau turquoise de l'océan Indien.
C'est un bateau quand même qui fait à près de 350 mètres. Donc vous imaginez 350 mètres comme ça plantés devant nous, c'est quand même énorme.
Pour voir de plus près les dégâts, le couple s'est rendu en voiture dans le village côtier de Pointe-d'Esnie où des traînées d'hydrocarbures sont visibles.
Le lagon est très clair d'habitude, hein, très très clair. Donc il y a des contrastes forts entre les parties claires et les parties sombres. Là, il y a des mélanges d'eau et de pétrole. Par contre, plus loin, dans la baie de Maïbourg et un petit peu plus haut, il y a carrément du pétrole de l'une d'autre sur la plage.
Un spectacle désolant dans un écosystème exceptionnel. Le père de famille ne comprend pas comment un navire aussi géant a pu s'approcher des côtes.
On a vraiment le sentiment qu'il n'y a pas eu de principe de précaution au niveau des autorités. On s'est vu dire qu'il n'y avait aucun risque. Et voilà, le risque se matérialise.
Une consolation tout de même, la solidarité des Mauriciens qui se rassemblent sur la plage pour sauver leur île.
Il y avait des centaines de personnes. Tout le monde bricole et on a confectionné des espèces d'énormes bouées, très longues bouées, à partir de paille de canne à sucre. Et là, on les a étalées sur environ un kilomètre de plage, par mesure de précaution. Mais c'est vraiment avec les moyens du bord.
Et les habitants de l'île comptent désormais sur l'aide de la communauté internationale pour éviter une terrible catastrophe écologique.
Et hier, la France a envoyé du matériel et des équipes à Maurice depuis l'île de la Réunion voisine. Face à face tendue en Biélorussie, les bureaux de vote du scrutin présidentiel viennent de fermer. Premières estimations attendues dans la soirée. Après 26 ans au pouvoir, Alexandre Loukachenko devrait être réélu tout à l'heure. Il a promis de ne pas perdre le contrôle du pays. L'opposition menée par une candidate de 37 ans, Svetlana Tikhanovskaya, appelle à une élection honnête et à un rassemblement à Minsk ce soir. Le gouvernement britannique serre la vis dans la Manche et demande à la France d'agir aussi de son côté contre les traversées de migrants. De plus en plus d'embarcations arrivent sur les côtes anglaises depuis la France. 10 fois plus en juillet cette année par rapport à l'an dernier. À Londres, Sophie.
Depuis jeudi, ils sont plus de 500 à avoir traversé la Manche pour se rendre au Royaume-Uni. Des hommes, des femmes, parfois enceintes et de très jeunes enfants. Accusés d'avoir perdu le contrôle de cette voie maritime, la ministre britannique de l'Intérieur a sorti les grands moyens. Un ancien de la Royal Marine a été nommé en charge de la lutte contre ces traversées clandestines et l'armée pourrait intervenir pour empêcher les bateaux d'atteindre les eaux britanniques. La députée conservatrice du Kent, Nathalie Elphick.
Ce qu'on voit avec les gardes-frontières en ce moment, c'est qu'ils interceptent les bateaux et ils les escortent jusqu'au Royaume-Uni. Si on veut que la Navy ou les gardes-frontières soient efficaces et rendent cette route impraticable pour les petites embarcations illégales, ils doivent renvoyer ces bateaux en France. Et nous devons nous assurer de l'accord de la France en ce sens.
Depuis déjà plusieurs jours, Londres et Paris se renvoient la balle. Le gouvernement britannique demande une action plus ferme de l'autre côté de la Manche. Les autorités françaises, elles, se disent pleinement mobilisées. Une réunion est prévue mardi au ministère de l'Intérieur à Paris avec le secrétaire d'État britannique à l'immigration, Chris Philpe, pour essayer de trouver un terrain d'entente. À Londres, Otsoufi, France Inter.
Alors que la canicule frappe le nord de l'Europe en ce moment, ce sont des pluies torrentielles ailleurs. En Grèce, 5 personnes ont trouvé la mort et 2 sont portées disparues après des inondations. Sur l'île d'Eubé, près d'Athènes, des glissements de terrain ont fait 43 morts dans le sud-ouest de l'Inde et 30 morts en Corée du Sud. L'affiche de la soirée en football, c'est le choc OL-PSG, finale de la Coupe de France féminine. Un grand classique, les Lyonnaises partent favorites, tenantes du titre. Elles ont aussi été sacrées en D1 juste avant le confinement, mais les Parisiennes n'étaient qu'à 3 points derrière. Et après des mois, entre parenthèses, à cause du coronavirus, il va donc falloir confirmer cette suprématie. D'autant que l'autre enjeu, c'est la Ligue des Champions. Comme les hommes, l'OL et le PSG ont rendez-vous en quart dans quelques jours. Bref, des défis comme les aime la Lyonnaise Amandine Henry, originaire de Lille et qui a rencontré Sylvain Charlet de France Bleu Nord.
Remporter une 7e Coupe de France, c'est l'un des objectifs de l'été d'Amandine Henry qui a conscience de ne pas être encore à 100%.
Quand tu coupes 3 mois, tu peux pas arriver toute fraîche, ça y est, passement de jambes, but, pleine lucerne, quoi. C'est petit à petit de retrouver les automatismes, le ballon aussi, le grand terrain. Donc je me sens très bien, je monte en puissance et pour arriver, j'espère ce week-end à 100%.
Amandine, ravie de retrouver ses rivales parisiennes avec qui elle lutte depuis des années pour le titre national.
C'est ça qui est bien parce que t'as pas à attendre 3 mois avant de jouer un gros match ou une grosse compétition, ça vient direct, donc ça met encore plus de piment, quoi.
Et la capitaine des Bleus n'a qu'une seule envie en ce mois d'août, réaliser le grand chelem.
Le mois d'août idéal, c'est de remporter Coupe de France et Champions League en ayant fait des belles performances et puis de repartir avec ces 2 trophées et pour rebelote pour une nouvelle saison.
Et il sera temps ensuite de remonter dans le nord, à Lille, pour fêter cela en famille, mais pas n'importe où.
Quand je rentre, c'est la baraque à frites, forcément. C'est le détour du soir, d'attendre ton Américain.
Et pour savourer son Américain, Amandine devra donc s'imposer ce soir face au Paris Saint-Germain, puis en quart de finale de Ligue des Champions contre les Allemandes du Bayern Munich le 22 août.
Ouais, et d'après ce qu'on me dit, un Américain, c'est un sandwich frites merguez. D'autres pensent que c'est un sandwich steak haché et merguez. Donc voilà, avis aux habitants du Nord pour y répondre. Lyon-PSG en tout cas à Auxerre, finale de la Coupe de France féminine ce soir à 21h. Le Sud-Africain Brad Binder remporte le Grand Prix de moto de République Tchèque. Les Français Johan Zarco et Fabio Cartararo terminent respectivement 3e et 7e. Et puis en Formule 1, c'est la Red Bull de Max Verstappen qui termine en tête à Silverstone pour le Grand Prix anniversaire des 70 ans de la Formule 1. Et si on allait trouver un peu de fraîcheur à Nantes avec cette cascade d'eau installée par un artiste, c'est le rideau, le clou du spectacle du festival artistique Voyage à Nantes en ce moment, en plein air et au pied du théâtre de la ville. En tout cas, forcément, l'idée séduit les riverains et les touristes avec ses chaleurs. William de Lesseux.
Place Gralin, c'est de l'eau qui chute du fronton du théâtre construit au XVIIIe siècle, un rideau qui dévale ensuite les marches pour se jeter dans un bassin construit pour l'occasion. Effet saisissant et rafraîchissant, garanti.
Oui, on est très bien là, on prend le frais et ça fait du bien. Je trouve que c'est une idée très moderne, dans le contexte là, du voyage à Nantes, c'est une très bonne idée.
Étonnant, vraiment.
C'est vrai que c'est idéal, mais c'est assez impressionnant.
L'artiste Stéphane Tidet découvre le résultat de son installation.
Une émotion de réussite. Oui, ça marche. Après tous ces essais, toutes ces études.
Tout a été prévu pour ne pas endommager le bâtiment classé au monument historique.
Moi, je souhaite que tout élément d'une ville ne devienne jamais un obstacle qu'on contourne, mais reste possiblement encore un événement auquel on ne s'attend pas, une surprise.
Un festival qui a pu se tenir malgré la crise sanitaire, une victoire, dit Jean Blaise, directeur général du Voyage à Nantes.
À la fois soulagé et fier d'avoir tenu, d'avoir essayé de résister. Petit à petit, bien on a réussi quand même, je pense, à imaginer un parcours qui tienne.
Les organisateurs misent sur un public essentiellement français, les 20% de touristes internationaux ne pouvant pas venir cette année.
Un reportage de William Delesseux et le voyage à Nantes, c'est jusqu'au 27 septembre. La route, fin du dernier week-end de chassé-croisé estival. Diane Sprimont, vous êtes au PC Mobilité de Radio France et Diane s'est chargée en ce moment sur l'A7 dans les Bouches-du-Rhône.
Oui, en direction de Marseille où il y a un bouchon de 5 km de Salon de Provence à Lançon-Provence où une voiture est en panne. Toujours sur l'A7 direction Marseille, mais cette fois dans la Drôme. Le trafic est ralenti de Porte-les-Valences jusqu'à Livron avec un bouchon d'une dizaine de kilomètres. Et puis dans les Alpes-Maritimes, la circulation est un peu perturbée en direction d'Aix. Après la sortie 58 Roquebrune-Cap-Martin, où il faut attendre quelques minutes avant de passer le péage de la Turbie.
Diane Sprimont du PC Mobilité de Radio France. Et si vous êtes en voiture, la clim, accessoire indispensable, la canicule est bien installée en France. 5 nouveaux départements sont en vigilance orange. La Savoie, la Haute-Savoie, mais aussi la Haute-Loire, l'Isère et l'Ain. Et la vigilance rouge est maintenue pour 15 départements du nord du pays. Canicule qui devrait durer jusqu'à mardi au moins. En attendant, quelles sont les prévisions pour demain lundi? C'est avec Jean-Pierre Hameau de Météo France.
Le temps est lourd et orageux ce soir et cette nuit entre les Pyrénées, le Massif central, la région centre, le bassin parisien et le nord. Localement, ces orages seront accompagnés de bonnes rafales de vent. Les températures nocturnes seront une nouvelle fois étouffantes avec des valeurs en fin de nuit souvent supérieures à 20 degrés. L'air sera plus respirable entre la Bretagne et la Normandie. Demain, votre matinée sera souvent ensoleillée, excepté le long de la façade atlantique ainsi qu'au nord de la Seine où vous retrouverez un ciel chaotique et quelques averses déjà orageuses. À noter la présence d'entrées maritimes quotidiennes autour du golfe du Lion, leur dissipation sera partielle en journée. Et puis l'après-midi, on retrouvera une activité orageuse un peu plus marquée sur toute la façade ouest du pays. Dans les autres régions, des orages d'évolution diurne vont se déclencher dans un contexte toujours caniculaire. Seuls la Lorraine, l'Alsace et le pourtour méditerranéen seront épargnés et conserveront un bon ensoleillement. Les températures, quant à elles, resteront chaudes, mais les maximales perdront 1 à 2 degrés par endroit.
19h18 sur France Inter et je vous rappelle la principale information de cette soirée. 6 touristes français auraient été tués au Niger aujourd'hui, selon des sources nigériennes. On attend encore pour l'heure la confirmation du Quai d'Orsay.